l'Alliance des évangéliques aux États-Unis.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue sur VOA Afrique. Vous suivez le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous. Le rôle historique et l'influence des évangéliques sur la présidentielle américaine, c'est notre sujet de ce soir. Michel Claire-Joseph assure la réalisation de cette édition. Dans un pays où les valeurs religieuses et les identités sociales influencent souvent les choix politiques, les électeurs évangéliques, et en particulier les hommes latino-américains évangéliques, se démarquent par leur engagement grandissant en faveur du parti républicain. Avec les dernières élections, nous observons un basculement qui dépasse les simples considérations politiques, englobant des aspects de foi, de genre et de position socio-économique. Selon le cabinet Edison Research, 54% des électeurs latino-masculins ont voté pour le républicain Donald Trump cette année, contre 36% en 2020. Quels sont les enjeux de ce ralliement pour la démocratie américaine et la diversité des voix au sein de l'électorat? Pour explorer les raisons et les implications de cette tendance, nous recevons aujourd'hui deux analystes politiques et spécialisés aussi dans la sociologie électorale aux États-Unis. Ensemble, nous allons essayer de comprendre les dynamiques qui expliquent ce ralliement et les conséquences de l'influence évangélique sur l'avenir politique du pays. Calvin Duck, analyste américain, directeur et cofondateur de RC Communication, un centre de réflexion basé ici à Washington DC, est avec nous en ligne. Calvin, bonsoir.
Bonsoir.
Nous aurons également Marlene Sefocle de Howard University que nous essayons de joindre en ce moment. Calvin, je vais commencer avec vous. Comment expliquez-vous l'attrait croissant des candidats républicains pour les communautés évangéliques, latino et ouvrières?
Oui, je crois que ce qui se passe, surtout pour ces élections, et Donald Trump, un slogan de Donald Trump, il veut « Make America Great Again ». Et l'image de cette idée pour quelques-uns des chrétiens, les évangéliques, c'est un retour à la passé. Surtout contre l'avortement, les valeurs traditionnelles de la famille, contre la LGBT. Et je crois que parce que Trump sait que c'est très difficile de motiver les électeurs avec des plans économiques et des chiffres, c'est beaucoup plus facile de le faire avec la peur et surtout avec la religion. Et je crois que c'est pour ça que Donald Trump a gagné beaucoup de soutien de cette communauté, pas juste les évangéliques blancs, surtout avec les latinos, et aussi quelques-uns des noirs de cette communauté.
Nous avons Marlene Sefocle en ligne. Marlene Sefocle, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Oui. Marlene, quelle a été l'évolution historique de l'influence des évangéliques dans la politique américaine?
Donc cette influence, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le participant précédent.
Calvin
Duck. Le rôle des églises a été fondamental parce que c'est dans les églises qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont propagées, notamment l'idée qu'on peut devenir très riche rapidement avec la bénédiction de Dieu. Et donc cette idée-là, et c'est une idée qui est fondamentale parce que Trump, lui, il incarne cela. Mais ce que les gens oublient, c'est que lui, il est né avec une véritable cuillère en argent dans la bouche parce que son père lui a légué 430 millions de dollars. Donc, qu'il les fasse fructifier et qu'il devienne milliardaire, c'est dans l'ordre des choses tout à fait possible. Tandis que pour eux, la vaste majorité d'entre eux ne deviendront pas riches comme lui. Donc, c'est là une véritable, si vous voulez, une sorte de farce, quoi.
Oui, et dans quelle mesure la dimension religieuse influence-t-elle le choix de vote des évangéliques, Marlene?
Eh bien, dans quelle mesure? Eh bien, il s'agit aussi de propager un message de haine, voilà, de haine contre certaines communautés. Par exemple, la communauté, enfin les LGBT, en disant que ce sont des personnes maléfiques, alors que ces personnes sont des humains et ont des droits également. Et donc, il s'agissait aussi dans le message de propager une certaine suprématie blanche et nationaliste. Et cette suprématie blanche nationaliste a même fait des adeptes parmi les non-blancs. Voilà, qui parfois dans leur pays d'origine, par exemple, quand certains viennent d'Amérique latine et dans leur pays d'origine, il y a cette espèce de stratification raciale déjà dans leur pays. Et donc, si le pasteur renforce cela, eh bien, de façon très biaisée, évidemment, eh bien, le message peut avoir une certaine portée.
Calvin, comment justement les questions de genre influencent-elles les tendances électorales parmi les évangéliques?
Je crois que ce que représente Donald Trump, c'est la vie traditionnelle avec un rôle réduit pour la femme, surtout dans la politique. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il a reçu la majorité de soutien des femmes blanches, par exemple. Mais je crois que un point très important, c'est que il y a toujours cette question pourquoi les évangéliques soutiennent Donald Trump, surtout parce que il n'est pas l'exemple de Jésus, comme je dis, et je sais aussi il ne prétend pas d'être chrétien ou évangélique. Mais pourquoi ils ont choisi de le soutenir? Je crois que c'est parce que ils veulent un président qui va lutter pour leurs valeurs et leurs projets de loi et leurs initiatives. Pas forcément un président qui représente leur foi, leur style de vie traditionnel. Et je crois que la preuve pour ça, c'est l'ancien vice-président Mike Pence. Après les élections de 2016, il était le candidat à la vice-présidence avec Donald Trump parce qu'il était membre de cette communauté. Et Donald Trump, il avait peur de ne pas vraiment avoir le contrôle dans ce groupe. Alors, Mike Pence était là pour surveiller un peu Donald Trump pour ces questions très importantes pour les évangéliques. Mais maintenant, en 2024, il n'y a pas de Mike Pence. Pourquoi? Parce que Donald Trump, il n'a pas besoin de Mike Pence parce qu'il a déjà convaincu cette communauté évangélique qu'il peut représenter leurs valeurs. Et je crois que ça, c'est vraiment un choc parce que dans les élections primaires, par exemple, les évangéliques ont rejeté un vrai évangélique en la personne de Mike Pence. Et maintenant, Donald Trump, il représente cette cause. Et je crois que ça, c'est le paradoxe un peu de soutien entre la communauté et Donald Trump.
Quelles sont les autres principales valeurs conservatrices qui poussent les évangéliques à soutenir certains candidats, Calvin?
Je crois que Donald Trump, il parle toujours de la liberté d'expression, de la religion. Et c'est ça la différence entre les évangéliques et les autres chrétiens, par exemple. Il veut un État chrétien, évangélique. Dans les écoles, il n'y a pas, selon eux, une séparation entre l'État et l'Église. Et je crois que c'est à travers le pouvoir politique au sein du gouvernement, il veut créer un État Christian nationalist, où c'est pas forcément que les politiciens, les preneurs de décisions sont évangéliques, mais tous les lois et le système basé sur leur conception de la vie correcte. Et je crois aussi, il faut signaler que il y a beaucoup d'évangéliques ou des chrétiens de la communauté noire. qui n'ont pas soutenu Donald Trump, parce que c'est pas tout. Il y a une différence très vaste entre les évangéliques blancs et les évangéliques noirs. Et je crois que c'est pour ça que les noirs n'ont pas soutenu Donald Trump comme les évangéliques blancs. Parce que quand les Noirs rappellent de again, de passer de Make America Great Again, c'était bien à l'époque des valeurs traditionnelles, mais c'était à l'époque aussi de manque de droits pour les Noirs, pour les autres communautés. Et je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas ce consensus entre la communauté évangélique en général.
Make America Great Again, c'est restaurer la grandeur de l'Amérique, c'est ça la signification en français. Marlene, les candidats démocrates parviennent-ils à capter une partie de cet électorat évangélique? Si oui, par quels moyens?
Donc, ils arrivent à capter une partie de cet électorat évangélique, notamment ils arrivent à capter surtout les démocrates arrivent à capter surtout les noirs américains, les africains américains, parce que les africains américains ne se reconnaissent pas du tout dans ce type d'évangélisme qui est proposé par l'église évangéliste blanche américaine, parce que justement, comme disait le participant précédent,
c'est Calvin,
comme disait Calvin, ils sont, quand on parle de Make America Great Again, ça renvoie à une période qui se situe peut-être dans les années 40, dans les années 50, où justement les Noirs n'avaient pas de droits civiques. Donc, on est dans, pour l'évangélique noir, il s'agit pratiquement d'une trahison. Donc, il ne peut pas s'allier à l'église évangélique blanche.
Alors, vous avez donné des messages de campagne qui résonnent le plus auprès des électeurs évangéliques. Marlene, comment cette tendance pourrait-elle influencer les stratégies de campagne des deux partis?
Alors oui, c'est-à-dire que le message des démocrates devra, je ne dirais pas, il ne devra pas changer, parce qu'il s'agit vraiment de défendre les droits civiques des Américains, il s'agit de défendre aussi le quotidien des Américains, de défendre aussi leur standing de vie de l'Américain moyen et de relever le niveau du standing de vie de l'Américain moyen. Donc, il faudra peut-être renforcer ce message-là et que ce message-là passe davantage parmi les démocrates, surtout ceux qui n'ont ou alors parmi les indécis ou ceux qui n'ont pas voté cette fois-ci.
Calvin, pourquoi assiste-t-on à une augmentation des votes en faveur des républicains parmi les évangéliques latinos, comme le montrent les chiffres que j'ai cités tout à l'heure?
Oui, je crois que c'est curieux, parce que d'un part, il y a un mouvement évangélique très fort au sein de cette communauté de latino, hispanique aux États-Unis. Mais c'est curieux parce que un des objectifs de ce mouvement, c'est de nettoyer, dans ces mots, à l'Amérique de tous les immigrés à son papier. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier, pourquoi cette communauté soutient les groupes qui sont contre leurs intérêts. Et je crois que le dilemme pour les démocrates, surtout pour les latinos, le Parti démocrate a plus l'idée, selon moi, l'idée correcte, que le rôle du gouvernement et les prenants de décision, c'est laïque. Mais je crois que le problème avec ça envoie le message que le Parti démocrate n'est pas des gens de foi. Et je crois que s'il y a, par exemple, une communauté de latinos, hispaniques, et ils cherchent un parti qui représente les Américains de foi, parce que les démocrates ne parlent pas de cette manière, comme les républicains, ils ont l'impression d'être laïcs, ou respectent pas la foi. Et je crois que le Parti démocrate doit changer ça pour dire, par exemple, il y a des gens de la foi, des chrétiens au sein du Parti démocrate, et aussi, il y a des valeurs du Parti démocrate, par exemple, comment traiter les immigrés, comment fournir l'assurance médicale, par exemple, pour les pauvres, qui sont vraiment, vraiment des valeurs de Jésus, selon moi. Et je crois que si le Parti démocrate peut mieux exprimer que ça, c'est vraiment à la base de leur politique, ça peut peut-être attirer un part de ce soutien de communautés latino et des autres qui cherchent un parti politique qui favorise les Américains de foi.
Vous écoutez le dialogue des religions, Eric Manirakiza avec vous. Le rôle historique et l'impact des évangéliques sur la présidentielle américaine, c'est notre sujet dans cette émission. Calvin, existe-t-il des divisions internes au sein de la communauté évangélique concernant les choix politiques?
Je crois qu'il y avait un moment pendant l'été. Il y avait un moment très, très crucial, très important. C'était quand Donald Trump, il a commencé de changer la position officielle sur la question d'avortement pour le Parti républicain. Il a réussi. Il a changé la position, le platform, comme on dit en anglais, du Parti républicain. Ne force pas la question de l'avortement, la prohibition d'avortement dans le pays. Et il y avait un moment où il y avait des questions parmi ce groupe des évangéliques. Si Donald Trump ne pousse plus leurs objectifs, peut-être il n'est pas le candidat pour les évangéliques. Mais je crois que quand ils ont vu l'alternative, surtout après la campagne de Donald Trump, ils ont insisté sur la question de trans, pour les transsexuels. Ils ont insisté sur Kamala Harris, elle est libérale de San Francisco. Toutes les choses qui représentent le contraire de leur valeur traditionnelle. Je crois qu'à la fin du compte, ils ont dit que parmi ces deux options, Donald Trump, il est toujours celui qui va lutter pour leurs objectifs, bien qu'il bouge un peu vers le centre, et ça, c'est pas leurs objectifs du tout.
Marlene, est-ce que le vote évangélique est-il uniforme ou observait-on des disparités selon des sous-groupes comme les jeunes, les femmes ou les minorités?
Alors, il y a, on sent qu'il y a des différences entre les femmes, les minorités, etc. On parle beaucoup du vote évangélique, d'accord, mais il y a aussi l'aspect genre, et je pense que l'aspect genre a beaucoup compté dans ces élections. Je pense qu'il y a eu, il faut pas se leurrer, il y a une espèce de racisme international, global, ambiant, et un misogynisme international, global, ambiant. Et je pense que ça a pu jouer un rôle dans ces élections. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas moi, deux personnes rentrent dans une banque, quel que soit le pays du monde, on fait d'abord confiance à l'homme noir, admettons que ce soit à l'homme blanc, pardon, admettons qu'il y ait une femme blanche et un homme blanc, une femme noire et un homme blanc qui visitent une banque. Je pense que immédiatement, et ça c'est pratiquement universel, on fait davantage confiance à l'homme blanc. Je ne peux pas vous dire combien de pays que j'ai déjà visités, où j'ai été consultante et autres, et où on m'a demandé qui est l'homme blanc qui soutient votre projet. Ça, c'est un problème de décolonisation, avant tout décolonisation des mentalités. Donc il y a l'aspect évangélique, si vous voulez, l'aspect religieux, mais il y a d'autres sous-aspects, comme par exemple l'aspect misogynie et l'aspect, si vous voulez, la candidate qui s'est présentée, Kamala Harris, contre Trump, elle combinait, si vous voulez, les deux. Donc, les gens, quelles que soient les capacités, quelle que soit l'intelligence, ils doutent. Il y a cette espèce de doute. Pourquoi ? Parce que les mentalités ont été formées pendant 4 siècles de colonisation, 4 ou 5 siècles de colonisation. Donc, il faudrait, si vous voulez, décoloniser les mentalités. Et je pense que cette élection va permettre aux gens de réfléchir sur leur prochain, qui est leur prochain, quelles sont leurs capacités et pourquoi il y a cette tendance. Les gens vont se poser des questions à eux-mêmes, si vous voulez.
Et comment les femmes évangéliques se positionnent-elles politiquement par rapport à leurs homologues masculins, Marlene?
Mais vous savez, il y a énormément de femmes américaines, en particulier des blanches américaines, qui votent comme leur mari. Leur mari, souvent, leur dicte comment voter. Leur mari va déposer le bulletin de vote dans l'urne. Donc, il y a toute une partie de cet électorat, surtout l'électorat féminin blanc, qui croit en la patriarchie, qui y croit fermement. Et donc, cet électorat ne peut difficilement être convaincu. Mais il va falloir faire des... les démocrates ont pensé que cette fois-ci, avec les lois vraiment très bizarres sur l'avortement que font passer les républicains, que ça serait peut-être un point d'ancrage pour l'électorat féminin. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des personnes qui croient fermement en la patriarchie et qui ne croient pas en leur propre capacité, c'est difficile de mobiliser cette branche de l'électorat.
Calvin, à votre avis, cette influence des évangéliques est-elle destinée à s'intensifier lors des prochaines élections présidentielles ? Quels seraient les défis et risques pour la démocratie ?
Je crois que si la question de l'avortement n'est pas une question très importante pour les prochaines élections, c'est-à-dire peut-être ça va se résoudre au niveau de l'État. Et il n'y avait pas vraiment un mouvement peut-être pour l'avortement au niveau national. Peut-être ça va changer ses efforts parce que c'est sur cette question ils sont très très motivés. Mais je crois aussi, quelque chose de très important, il faut citer le rôle de ces tentatives contre Donald Trump, surtout la première tentative d'assassination. Ça, c'est vraiment clé pour les évangéliques parce que je crois qu'il y avait des doutes, surtout parce que nous savons que l'histoire de Donald Trump avec les femmes et avec les valeurs traditionnelles, c'est pas exactement l'exemple. Mais après la tentative, il a vraiment décrit l'événement comme moment décisif de Dieu. Il est candidat, il a fait tout ça, tous les obstacles juridiques, de l'âge, de politique, pour arriver à la Maison-Blanche la deuxième fois. Et je crois que ça, c'était vraiment, vraiment important pour les évangéliques, parce qu'ils ont vu Donald Trump comme leur saveur, un peu. Et je crois que ça, c'est en part parce que la tentative d'assassination.
Marlene, c'est faux qu'il nous reste...
Ce que dit Calvin est vraiment très juste. Il a eu... On remarque que quand il y a tentative d'assassinat, il y a tout de suite une sorte de... il y a eu un changement dans la population. C'était le cas de Bolsonaro également. Donc c'est comme une sorte de modèle. Voilà.
En quelques secondes, Marlene, comment cette tendance évangélique pourrait-elle évoluer dans les prochaines élections, en particulier si les enjeux sociaux changent? Il nous reste 30 secondes.
si les enjeux sociaux changent, il y aura, bon, si toutefois il y a des changements énormes, il y aura peut-être un renversement de la situation parce que les gens verront peut-être que ce pour quoi ils ont voté, ce en quoi ils ont cru ne correspond pas tout à fait à ce qui se passe. Leur vision ne s'alignera peut-être pas avec ce qui a été proposé.
Calvin, en 10 secondes, faut-il s'attendre à une fracture générationnelle?
Oui, je crois que oui, ça va être à cause de le changement climatique, parce que ça, c'est une question très importante pour les jeunes évangéliques, contrairement à leurs parents.
Merci beaucoup à Calvin Duck, Marlene Sefocle, pour vos différentes contributions dans cette émission de Dialogue des religions, le rôle historique et l'impact des évangéliques sur la présidentielle américaine. C'est